de ce que vous voulez.
Bonjour Clément Puget.
Bonjour.
On est à côté d'une file d'attente pour l'Université Populaire du Cinéma. Vous, le cinéma, vous l'enseignez à l'Université de Bordeaux 3 Montaigne. Vous êtes spécialisé dans le rapport de l'histoire et du cinéma, particulièrement un master qui est lié aux archives.
Oui, absolument. Alors, c'est lié à mes recherches de thèse, d'abord, sur la Première Guerre mondiale et le cinéma français. J'ai notamment travaillé sur la bataille de Verdun, donc les archives, évidemment, les films d'archives, les films militaires, puis les films documentaires, les films de fiction. Et puis, aujourd'hui, à Bordeaux-Montaigne, comme vous le disiez, je co-dirige un master dont l'intitulé exact est « Cinéma et audiovisuel, parcours, documentaire et archives ». Donc, en effet, la question des archives, qu'elles soient filmiques ou non filmiques, m'intéresse beaucoup, et d'autant plus que je travaille aussi sur un autre projet de recherche, là, pour le coup, sur les archives non filmiques, archives papier, affiches de cinéma, programmes, sur le cinéma de 1908 à 1919. Cela avec Laurent Verret, un autre historien du cinéma qui s'intéresse à ces questions.
Et cet intérêt, cette passion, ça vous est venu déjà enfant, ou vous vous êtes intéressé au cinéma par le biais justement des documents qu'on pouvait obtenir ?
Non, très franchement, ça vient pas de là. Je dirais même que, peut-être paradoxalement, ce goût pour l'archive et donc le document me vient de la fiction, parce qu'au fond j'ai d'abord aimé le cinéma de fiction historique, et c'est en découvrant le cinéma de fiction historique et peut-être ce qui lui manque du réel que j'ai voulu aller vers le document, vers l'archive. C'est plutôt dans ce sens-là, au fond, que la démarche s'est faite.
Alors Clément Puget, vous mentionnez que les films de fiction vous a d'abord nourri. Est-ce qu'il y a des cinéastes en particulier ? Est-ce que vous parlez des films de guerre aussi ? On pense bien sûr à Platoon, ou Full Metal Jacket. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué ?
Ah oui, il y a beaucoup de films, c'est assez compliqué. Je vais vous parler des films, peut-être que là j'ai en tête parce qu'en cours je les aborde et au fond ils constituent une part de cet imaginaire depuis quelques années. Un film comme L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville en 69 est un film que j'ai découvert assez tôt, que j'ai redécouvert par la suite, que maintenant j'analyse avec mes étudiants et qui est une fiction. Fortement inspiré du réel, évidemment, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que ça fait partie des films qui m'ont à la fois donné envie d'en savoir plus sur l'histoire et de comprendre comment l'histoire pouvait peut-être s'écrire au cinéma. Voilà un film. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Je pourrais citer Alexandre Nevsky, qui du côté d'Eisenstein, donc, et du cinéma soviétique, est un exemple formidable d'une tentative d'écriture de la bataille, fameuse bataille du lac gelé, en 30 minutes, et tout cela en 1938, enfin ça sort sur les écrans en 38. Voilà, ça fait partie comme ça des films qui, c'est vrai, m'ont intrigué, m'ont donné envie d'approfondir et de travailler au fond sur le cinéma du point de vue de l'historien.
Là, d'après vos propos, on comprend qu'il y a les films qui sont transmis, l'histoire qui est transmise par la fiction ou l'histoire transmise par le documentaire. Est-ce que pour toucher les jeunes, il y a un moyen plus efficace ? Est-ce que la fiction peut plus les intéresser ? Ou est-ce que les jeunes, actuellement, sont tout aussi sensibles aux deux propositions ?
C'est pas évident comme question. Ça
demande... D'où le fait que je la pose.
Oui, vous faites bien. Mais c'est une question très importante. Mais je crois que les jeunes peuvent être intéressés et par le documentaire et la fiction. Alors peut-être que oui, ils vont d'abord vers la fiction assez naturellement, parce que c'est la fiction qu'ils découvrent dans les salles de cinéma, sur les petits écrans aussi, petits ou grands, spontanément, voilà, peut-être naturellement. Maintenant, je pense qu'après avoir vu un film de fiction, on a peut-être envie d'en savoir plus et de découvrir d'autres modalités de récit. Et le documentaire n'est absolument pas une forme sérieuse, presque justement un petit peu scolaire, qui ne serait que la transmission d'un savoir. Il y a aussi beaucoup de créativité dans le documentaire. Donc j'aurais quand même envie de dire à un jeune public, allez vers le documentaire, prenez le risque et vous ne serez pas déçus. Et il y a quelques semaines, à l'occasion d'un autre festival à Bordeaux, je présentais le film documentaire de Gianfranco Rosi sur Lampedusa, le film qu'il a réalisé récemment. Et au fond, il y avait devant moi des classes de lycéens, trois classes de lycéens qui n'avaient pas vu ce film et qui sans doute ne seraient pas allés le voir. Bon, ils sont ressortis de ce film en me disant une chose étonnante, mais à mon avis finalement tout à fait logique, c'est que ce film racontait une histoire et que c'était passionnant. Et donc tout en étant un documentaire, ils avaient eu le sentiment évidemment qu'on leur racontait une histoire. Je pense qu'il ne faut pas craindre du côté du documentaire qu'il fasse cet écueil justement. Et fiction et documentaire, travaille le réel de manière différente, mais toujours pour raconter une histoire. En cela, à mon avis, ils se rejoignent.
Et puis, selon les documentaires, bon, évidemment, sur les réfugiés, on ne va pas s'identifier. Il n'y a pas une identification comme avec un protagoniste de cinéma, de fiction. Cependant, on peut avoir de l'empathie, on peut avoir un sentiment quand même de fraternité et peu à peu adhérer à ce qu'il raconte, même si on reste quand même spectateur.
Oui, absolument. Oui, oui. En effet, l'identification est moins commode, moins simple, peut-être plus douloureuse aussi, selon les sujets à aborder. Mais elle est possible. Et puis, c'est un autre rapport, au fond. C'est-à-dire que dans la fiction, il va y avoir en effet cette envie, cette imitation un petit peu du héros ou de l'héroïne. Éventuellement, le documentaire propose une matière plus réflexive. Et donc, ça appelle aussi un autre regard, un autre travail sur soi, mais qu'à mon avis, un public qui soit jeune ou moins jeune peut tout à fait faire, dans la mesure aussi où il est accompagné. Et c'est tout l'intérêt de séances scolaires pour le cinéma, d'université populaire, bien sûr de cours à l'université, ça va sans dire. Donc peut-être aussi que les films méritent, un accompagnement, ou en tout cas une habitude, une grille de lecture, voilà, un travail que l'on peut faire et que nous, on essaie d'enseigner à l'université.
Alors, Clément Puget, vous parlez justement d'accompagnement. Là, il y a pour la première édition un magnifique livre de dossier pédagogique qui a été élaboré. Et je le trouve à la fois didactique et très ludique. Est-ce que vous avez cette impression justement qu'il faut peut-être permettre aux élèves d'accéder à des films avec un moyen comme ça relativement ludique, déjà visuellement, pour les inciter à aller plus loin ?
Oui, sans doute. Alors, très honnêtement, j'ai pas parcouru le dossier que vous évoquez, mais je doute pas qu'il soit très réussi. Mais nous, il y a un travail sur ce festival à Pessac qui est conséquent depuis des années et qui va dans ce sens, donc ça ne me surprend pas du tout. Oui, je pense que c'est un outil important. Après, c'est vrai que je mets quand même le film avant tout, comme élément fondamental. Parfois, l'erreur et l'écueil que certains, au fond même personnes érudites, historiens, ont fait, c'est qu'ils ont un peu oublié le film au profit du savoir. Et le savoir historique sur tel sujet, l'expertise sur telle ou telle question, a parfois un peu écarté le film dont on pensait que finalement il ne serait qu'une illustration. Alors voilà, il ne faut pas faire cette erreur et que l'écrit ne prenne pas non plus la place du récit filmique. Mais à partir du moment où évidemment on voit les films, on s'y consacre et on y consacre du temps, oui, je pense que là, les dossiers pédagogiques et les ouvrages et tous travaux qui peuvent permettre un accompagnement sont essentiels, hein, absolument passionnants. Mais attention à ne pas, je dirais, faire passer le savoir avant peut-être l'émotion du spectateur, qui doit être première.
Et vous mentionnez beaucoup le langage filmique. Comment vous travaillez sur ce langage filmique avec vos étudiants ?
Alors, c'est tout simplement, d'ailleurs c'est moi, mais aussi toute l'équipe en cinéma à Bordeaux, on travaille en analyse filmique d'abord, donc analyser les formes de récits filmiques, ça va de la narratologie jusqu'à l'analyse historique, voire dans une perspective d'histoire culturelle, mais aussi la dimension esthétique, formelle, philosophique aussi éventuellement. Donc ce sont des, au fond, différentes disciplines qui nous inspirent, qui nous permettent de travailler cette matière cinématographique, dans un rapport qui est à la fois très technique sur la forme et puis aussi peut-être plus, je dirais, théorique avec différentes approches. Moi, la mienne, elle est historienne et très, très concrètement, face à un film d'histoire, je vais évidemment analyser le récit filmique, la forme filmique, mais ensuite, une fois que l'on a su décrire les plans, que l'on a compris les effets, que l'on a saisi ce qu'est un travelling ou un fondu enchaîné, il faut se demander dans une perspective historique pourquoi un travelling si l'on traite d'histoire, pourquoi un gros plan si il y a un sujet historique derrière. Et là, c'est là que l'analyse historique n'est pas l'analyse philosophique, qui n'est pas l'analyse sémiotique ou narratologique.
Ça doit être passionnant. Vous mentionnez tout à l'heure, hors interview, que vous avez rencontré Richard Lindo, un de nos héros de l'Helvétie. Vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Et comment ça s'est passé avec Richard Lindo ?
Oui, absolument. C'est vrai que c'était pour nous aussi, ici à Bordeaux-Montagne, un moment important. Donc c'était à l'occasion d'une masterclass. C'est la tradition dans cette formation que je co-dirige depuis 2012, pardon, pour être précis. On invite un cinéaste ou une cinéaste chaque année, voilà, pour évoquer son œuvre, sa démarche documentaire, son geste documentaire, on pourrait dire. Et donc, on avait choisi Richard Lindo, alors cela grâce à notre collègue Cathy Dambelle, qui avait travaillé avec lui, me semble-t-il, il y a quelques années, en tout cas, qui avait son contact. Et Richard a été formidable, a accepté l'invitation très facilement. Et donc est venu, nous a présenté 4-5 films, je crois. Et on a pu avoir des discussions, mais aussi des vraies séances d'analyse du travail qu'il avait fait autour de sujets qu'il avait évoqués, bien sûr, autour de formes filmiques qu'il avait adoptées, très différentes d'un film à l'autre. Hein, l'importance de l'écrit chez lui, qui est essentielle, et passionné de littérature. Et c'est pas un hasard s'il fait ce film sur Genet à Chatila, où à la fois, bien sûr, c'est l'histoire qui est importante, mais c'est aussi l'écrit et un ouvrage et des textes que l'on connaît qui sont fondamentaux. Et donc voilà, il avait évoqué comme ça tout son travail, sa démarche de cinéaste, son travail pour la télévision également, son travail du côté de la fiction qui est moindre en nombre de films mais qui compte aussi beaucoup. Et ça avait été un moment très riche, très intéressant, et c'est une anecdote que je vous livre. On avait prévu que Richard s'en aille le vendredi soir, il devait rentrer en Suisse, et comme le public à Plessac était présent, la salle était comble, et bien il a dit qu'il resterait toute la soirée, qu'il partirait que le lendemain parce qu'il se sentait bien.
Et accessoirement, les vins de la région, ça a peut-être enthousiasmé ses papilles, hein. Qui sait ?
C'est pas impossible.
Dans vos prochaines programmations de masterclass, vous avez quels cinéastes qui sont annoncés ?
Alors, on fait ça d'année en année. Donc, le prochain cinéaste, c'est André Yujica, qui a beaucoup travaillé l'image d'archives, l'histoire aussi. C'est quelqu'un qui pourrait tout à fait être présent ici à Pessac en ce moment. Et donc, il viendra à la fin du mois de mars. Voilà, ce sera notre invité pour l'année 2018. Ensuite, j'ai l'idée, vous le direz à personne évidemment, que Patricio Guzman nous rejoigne peut-être en 2019. Voilà, on y pense.
Voilà, Patricio Guzman qui est actuellement à Genève pour le festival Filma. Vous parliez tout à l'heure en début d'interview de votre travail sur la bataille de Verdun. Quelle est votre observation de l'imaginaire qui s'élabore après la guerre ?
Alors, pour parler juste de Verdun, parce que c'est une question très, très vaste, travailler sur Verdun était intéressant parce que je suis parti des films militaires, ceux qui sont faits pendant la bataille de Verdun, donc c'est-à-dire février à décembre 1916. Petit à petit, des films se font, pas au tout début de la bataille d'ailleurs, et donc il y a tout un moment où la bataille est invisible, où le spectateur ne voit pas ce qui se passe à Verdun, mais voit la préparation, voit au fond tout ce qui est périphérique à la bataille, au combat. Et puis petit à petit, évidemment, la fiction va prendre le relais. Et on connaît les films de fiction tels Verdun, Vision d'Histoire de Léon Poirier, La Grande Illusion de Renoir qui évoque aussi Verdun. Et puis plus tard, peut-être dans des allusions au fond moins évidentes, le retour de Kubrick sur ce moment de 1916 dans Les Sentiers de la Gloire. Donc j'ai analysé toutes les apparitions, si je puis dire, toutes les citations, les évocations de la bataille de Verdun, que ce soit dans un dialogue, que ce soit en images, tout au long de l'histoire du cinéma, jusqu'à nos jours, puisque si je pense aux derniers films, aux films les plus récents sur 14-18, Cessez-le-feu d'Emmanuel Bourcol évoque Verdun de manière assez réussie et problématique, qui m'intéresse beaucoup. Et le récent film d'animation Adama de Simon Roubi évoquait aussi le terrain de Verdun comme lieu de révélation pour le héros, mais j'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Donc cette bataille de Verdun, elle n'a jamais tout à fait disparu du cinéma, et en même temps elle a eu des phases d'assoupissement, prouvant à la fois que l'événement Verdun est une forme de métonymie de la Grande Guerre hein, dans l'imaginaire français, mais également montre que l'histoire bataille a eu ses moments de gloire, mais aussi ses moments de creux. Et semblerait-il, selon les historiens spécialistes, on est aujourd'hui dans une phase de renouveau de l'histoire bataille. Alors peut-être que demain, je ne sais quand, eh bien, il y aura un nouveau film sur Verdun, qui sait.
Vous en serez peut-être le réalisateur, qui sait aussi.
C'est compliqué de vous le dire aujourd'hui, de l'affirmer. C'est quelque chose qui pourrait arriver éventuellement, mais enfin j'en suis loin.
Et d'après votre expérience en tant que maître de conférence, est-ce que les jeunes, voire les plus jeunes, je pense aux lycéens qui sont très présents au Festival de Pessac, ont un intérêt quand même vivace pour l'histoire ?
Il me semble, oui, il me semble que l'intérêt est là. Alors bien sûr, ce sont les enseignants qui les amènent au festival, mais je crois que ce jeune public le regrette absolument pas, enfin, pour avoir échangé avec certains par les années la précédente. Oui, je pense que l'intérêt pour l'histoire, il passe par cet attrait du cinéma, par ce que le cinéma peut en dire. Mais je crois que l'histoire intéresse de toute façon ce jeune public. Parce que je ne suis pas persuadé, voyez-vous, que de retour chez eux, ils regarderaient des films d'histoire à la télévision. Là, on est dans une salle de cinéma, on est dans le cadre d'un festival. Et c'est bien aussi de voir des films sur grand écran, parce qu'ils ont été pensés et réalisés pour le grand écran. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que ça montre tout simplement que le cinéma, qu'il soit d'histoire ou pas, est un spectacle. Et ce spectacle, quand vous prenez un adolescent ou un lycéen, en tout cas, il ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas rester insensible. Donc oui, je crois. Je suis peut-être assez optimiste, mais j'ai envie d'y croire.
Et Clément Puget aussi, ce qui est la marque de fabrique du Festival de Pessac, c'est les intervenants, nombreux d'ailleurs, les débats. Ça permet aussi de pouvoir élaborer au-delà de la projection.
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que je dirais presque que c'est surtout en amont, c'est surtout en préparation d'un film à venir dans la programmation qu'il y a des conférences, qu'il y a des débats. Alors, pour moi qui suis vraiment à cheval sur histoire et cinéma, je serais un peu critique en disant que parfois, on laisse le film un petit peu de côté et on se concentre sur ce savoir historique, sur cette matière que les experts présents, évidemment, évoquent avec beaucoup de pertinence. Peut-être que finalement, ce qui suit la projection d'un film pourrait être aussi renforcé. Hein, si on veut améliorer les choses, on peut toujours. Et alors, j'apprécierais que des séances, au fond, d'analyse, de retour sur une œuvre projetée, se fassent tout autant que les conférences préparatoires et les débats se font. Mais je pense que, selon les intervenants, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut toujours approfondir d'édition en édition.
Alors, je vais parler à l'historien qui est en vous. La thématique est consacrée à la perfide Albion. Ça vous interpelle ?
Oui, enfin, là j'avoue que l'historien que je suis connaît mal cette question, donc ça m'interpelle, oui, ça m'intrigue. Après, de là à m'étendre dessus, non. C'est intéressant parce qu'on est aussi à Pessac, on est du côté de Bordeaux, et Bordeaux a évidemment une histoire avec, je dirais, l'insularité britannique qui est aussi intéressante, que l'on peut questionner, interroger. Il y a quelques spécialistes ici pour ça. Oui, tout à fait, c'est un clin d'œil aussi d'une certaine manière dans ce « So British » qu'ils ont proposé.
Merci Clément Puget.
Merci à vous. Ça va ?